Donc, bonjour à tous et bienvenue à un tout nouvel épisode du Balade Omni. Aujourd'hui est un épisode assez spécial car c'est le tout premier enregistré avec notre nouveau coprésident du GIMF, Joé. Pour l'occasion, nous recevons Dr. Céline Leclerc, médecin de famille, responsable du programme d'aide du choix de carrière à l'Université Laval et membre du conseil d'administration du CARMS. Donc, bienvenue à vous, Dr. Leclerc. Nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui.
Bonjour, ben ça me fait plaisir que vous soyez intéressé à la médecine familiale en particulier. Alors, on y va avec vos questions quand vous voulez.
Donc, pour notre première question, on aimerait ça que vous élaboriez un peu là, sur votre parcours et la raison pour laquelle vous avez choisi la spécialité de médecine familiale.
En fait, je suis un petit peu inconfortable de vous dire que j'ai toujours su que je voulais être médecin de famille. J'avais 5 ans, puis déjà, je voulais être médecin de famille. Il faut dire que je suis tombée dans la soupe quand j'étais jeune. Mon grand-père était un médecin de famille accoucheur. Il accouchait à domicile. Alors, il y a eu toutes sortes d'histoires comme ça. Par contre, malheureusement, il est décédé avant que je naisse. Et mon oncle, c'est du côté de ma mère. Alors, mon oncle aussi était un médecin de famille accoucheur. Et mon second oncle, j'en ai juste deux de ce côté-là, et fait partie de l'équipe qui a fondé l'enseignement en médecine familiale à l'Université Laval. Alors, j'étais un petit peu déjà prédestinée, mais en tout cas, tout au long de mes cours et tout ça, j'ai toujours compris que ça répondait à la personne que j'étais vraiment. Médecine familiale, c'est vraiment, premièrement, j'aime le monde. Je pense que ça paraît. J'aime vraiment le monde, puis j'aime être avec eux dans leur vie de tous les jours, en leur faisant bénéficier de ce que moi je sais ou ce que moi je vais chercher pour qu'ils se sentent mieux. Fait que ça a toujours été ça, ma façon d'être, là. Et puis, à partir du moment où j'ai eu des contacts avec la médecine familiale, je me suis rendu compte que ça répondait à ma personnalité aussi. Moi, je suis une personne qui a beaucoup besoin de nouveautés, de changements. Bon, je vous l'ai dit, là, de contact avec les personnes, mais contact avec les personnes dans ce qu'elles sont. Donc, ça, c'est vraiment un gros avantage de la médecine de famille parce que tu connais les gens dans leur intimité. Et puis aussi, ça répond à mon besoin de changement. La médecine familiale m'a permis pendant toute ma carrière de faire des changements. Puis on a du fun en médecine familiale. C'est pas la grande. N notre année de médecine, c'était pas une année où on compétitionnait les uns avec les autres. C'était vraiment une année où on collaborait. Et c'est cette collaboration-là aussi que je vous vis en médecine familiale. C'est pas grave que moi, je sache pas comment traiter les problèmes de prostate parce que je vous l'avoue, c'est pas mon fort, les problèmes de prostate. Mais j'ai toujours un confrère quelque part qui va me donner un coup de main puis qui va me dire, bon, ah oui, ben là, tu commences, tu prends ça de même, là, tu sais. Ou encore, ben, des livres ou dans lesquels, auxquels je réfère pour aller. Et mes patients ont toujours compris ça que j'ai je suis une personne humaine, j'ai des limites, mais je vais toujours aller chercher pour eux le meilleur. Alors, j'ai une relation avec mes patients aussi qui est vraiment très riche. Fait que tout le chemin que j'ai fait a toujours confirmé cette relation-là, puis cette variété-là. Parce que moi, hier, je parlais à un étudiant, puis lui voyait la diversité en radiologie. En radiologie, moi, c'est belle valeur, mais des radiographies, je ne vois pas la diversité bien gros là-dedans. Alors, je trouve que la place où on voit la diversité manifeste vraiment notre personnalité. Puis moi, ben, la diversité, je la vois en médecine familiale. Fait que c'est comme ça que je me suis accrochée puis que je suis restée en médecine familiale. Voilà. Et puis aussi, j'ai un côté, puis ça, c'est drôle parce que même mon frère qui est biochimiste médical, je vous en reparlerai plus tard, mon frère. On a un côté très voyageur. Et puis, ben, depuis, à partir d'un certain moment, ben, j'ai pratiqué dans des endroits différents. Et puis, donc, ça, c'est quand même quelque chose qui s'exporte bien, médecine familiale. Puis, je fais aussi du dépannage. Puis, moi, j'adore ça, aller voir des nouvelles communautés. Et la médecine familiale nous permet ça très facilement d'aller. Puis, tu l'organises comme tu veux dans ta vie, là. Ça peut être, à un moment donné, j'ai réouvert l'obstétrique à Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie. Et je continuais d'y aller à peu près une fois par mois pendant les 10-11 ans qui ont suivi. Et donc, je m'attache à du monde, mais je suis voyageuse quand même. Mais si tu veux, tu peux faire 3-4 semaines de dépannage par année, comme tu peux en faire 12-13. Fait que c'est. Moi, ça correspond beaucoup à ma personnalité de besoin de changement. Voilà. Alors, c'est pour ça que je suis heureuse en médecine familiale. Je suis toujours très heureuse.
C'est vraiment intéressant. Puis là, vous parlez beaucoup de diversité, de dépannage aussi, mais est-ce qu'il y a une patientèle en particulier, là, une pratique en médecine familiale qui vous intéresse davantage?
Ben, je pense que vous autres, vous devez déjà le savoir, j'en parle souvent dans mes conférences à la faculté. Moi, c'est sûr que c'est l'obstétrique, là, c'est vraiment les accouchements, le suivi des enfants. Puis même quand ils grandissent, je continue de les suivre. Alors, c'est vraiment un beau parcours. Mais c'est vraiment, moi, l'obstétrique, mais l'obstétrique de médecine familiale. C'est-à-dire que tu connais tes patients, tu les suis pendant 9 mois, idéalement, tu les accouches et après ça, tu suis les bébés qui grandissent. Et même, j'ai des bébés qui sont rendus médecins dans le Grand Nord, d'autres médecins dans la région de Montréal. Mes jumeaux sont rendus dans la région de Montréal, puis pratiquent maintenant. Alors, je les appelle mes jumeaux parce qu'ils sont venus à la faculté de l'Université Laval, là. Alors, ça, c'est un privilège, là, vraiment, de pouvoir suivre ce monde-là. Bon, et ben, c'est ça que j'aime, là. Il y a toute une histoire dans nos relations. Et même dans l'accouchement, il n'y a rien de. La seule chose que je trouve un petit peu difficile dans les accouchements, c'est que je suis pas une fille patiente. Alors, il a fallu que j'apprenne à devenir plus patiente quand il faut attendre pour que la dilatation se fasse, n'est-ce pas? Des fois, tu pousses pas, tu attends. Ce côté-là, j'ai réussi à dealer avec ça, je vais prendre un café. Quand je suis rendue impatiente, je vais prendre un café. Des fois, on devient impatient parce qu'on voudrait que le bébé sorte, là, il va-tu sortir? Il va-tu sortir? Puis là, ouais, là, tu as un petit goût mou, juste que j'aurais le goût de faire une ventouse là-dessus. Mais non, c'est pas le temps. Va prendre un café. Tu reviendras au bout de 15 minutes, une demi-heure, puis tu vas voir où est-ce que ça en est rendu. Puis ça, c'est très, très subtil. Ça, c'est mon petit côté impatient là, qui vient jouer. Mais à part de ça, moi, de ne pas faire gynéco-obstétrique avec la capacité de faire une césarienne, ça ne me dérange pas du tout, du tout. Quand on est rendu une césarienne, en région, c'est souvent les chirurgiens qui font ça. Alors, c'est parfait, j'assiste le chirurgien, puis on fait la césarienne. Ça ne me dérange pas de ne pas être la personne qui fait la césarienne. Alors, ça, c'est ça. Alors, moi, ma patientèle a été élaborée autour des grossesses puis des accouchements. Puis il y a encore une possibilité de faire ça aujourd'hui de façon différente, mais j'ai des jeunes consoeurs qui, justement, bâtissent leur clientèle autour des femmes enceintes puis des bébés. Puis c'est encore possible de le faire. Faut trouver notre place pour pouvoir le faire.
J'ai une question par rapport à ça. En fait, là, comment ça fonctionne avec les accouchements? Parce que, tu sais, je sais que souvent les gynécologues, obstétriciennes de garde sont souvent celles qui accouchent les patientes qui rentrent à l'hôpital. C'est tout ça? Comment ça fonctionne?
En fait, il y a deux groupes, hein. Si tu regardes, par exemple, si on est à Sainte-Anne-des-Monts, ce n'est que des médecins de famille qui font les accouchements. Puis si on a besoin de césarienne, c'est le chirurgien. Au Québec, à Québec même, là, il y a deux hôpitaux. Si on ne parle pas de Lévis, on va laisser Lévis de côté, parce que je connais, mais c'est probablement à peu près le même fonctionnement. Si on est à Québec, on a des patientes qui sont suivies par des médecins de famille et accouchées par des médecins de famille, et des patientes qui sont suivies par des gynécologues et qui sont accouchées par des gynécologues. Alors, quand les patientes arrivent à l'hôpital, elles sont identifiées déjà à un des groupes de gens qui sont de garde. Puis les médecins de famille, on suit nos patientes. Si jamais on a besoin d'une césarienne ou d'une consultation pour une complication trop grave, ben on demande une consultation au gynécologue de garde. Et le contraire est arrivé à un de mes confrères qui, lui, à un moment donné, le gynécologue était pris à la salle d'op, puis il y avait un accouchement du gynécologue en même temps, puis il a demandé à mon confrère, puis-tu aller faire l'accouchement pour moi? Fait qu'il y a quand même une collaboration entre les deux. Ce qui peut être intéressant de connaître, c'est que la façon d'être de garde varie si on est en région ou si on est en ville ou selon. Il y a différents modes de garde. Si, par exemple, quand on est en région, comme je pense à la Pocatière, à Saint-Andémont, on est souvent de garde, les médecins de famille ou les gynécologues, aussi une semaine de temps, parce que c'est vivable. On est capable de s'organiser pour être de garde une semaine de temps. Si on est en plein bureau et qu'il y a un accouchement, ben on remet notre bureau et on va faire notre accouchement. Là, ça s'organise comme ça. Et puis, en ville, c'est souvent les médecins de famille ou les gynécologues font des 12 ou des 24 heures. Alors, c'est plus limité. Si on va à une place intermédiaire où il y a beaucoup d'accouchements comme médecin de famille, ben ça peut être 3 jours de garde, et demi, 3 jours et demi, tu sais, donc une semaine partagée entre deux groupes différents, deux personnes différentes. Fait, il y a toutes sortes d'ajustements qui se font là, pour la garde. Une chose que j'ai oublié de vous dire, puis je m'en souviens plus. En tout cas, ça reviendra un petit peu plus tard.
Hein. Il n'y a pas de stress. Mais c'est vraiment intéressant pour vrai, la gynéco-obstétrique en médecine familiale. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresserait. C'est intéressant d'entendre parler.
C'est fantastique. Ah oui, je sais. Il y a une autre affaire de médecine familiale qui m'attire beaucoup, beaucoup. Et ça, vous allez être surpris, c'est l'érudition en médecine familiale. C'est une érudition qui peut être un peu différente, mais tellement intéressante. Moi, je suis très, 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 très curieuse au point de vue intellectuel. Et j'ai été chercher, puis ça, je vous encourage vraiment à le faire quand vous allez être en pratique. Je suis allée chercher les nouveautés, puis les choses nouvelles qui se passaient. Entre autres, en gynéco-obstétrique, il y a quand même une trentaine d'années, je pense, là, ou 25 ans, 30 ans, on m'a donné le mandat de développer le stage d'obstétrique en médecine familiale, ce que j'ai fait. Et j'ai été chercher une formation aux États-Unis qui était une formation sur les complications obstétricales, mais donnée encore avec les médecins de famille. Alors, il y a toutes sortes de niveaux, là, donc l'utilisation de la ventouse, la lecture du tracé de monitoring fœtal, toutes sortes de choses comme ça. Et j'étais la première dans l'Est du Québec à être instructeur et puis après ça, maître instructeur pour toute l'Est du Québec. Alors, c'est une autre façon, c'est sûr que je n'ai pas appris à faire une césarienne là, mais c'est une autre façon aussi d'aller chercher le meilleur de soi. Puis, c'est vraiment intéressant, les formations qu'ils ont des fois aux États-Unis nous amènent à penser des choses différemment. Je suis aussi allée chercher une formation en dermatologie qui était beaucoup axée sur la petite chirurgie. En bureau, et j'ai parti le groupe de petite chirurgie là, dans mon GMFU avec des documents et tout ça. Fait que, des fois, d'aller chercher des choses qu'il y a à l'extérieur, ça nous amène à peaufiner notre propre pratique puis notre enseignement, parce que j'étais déjà dans un GMFU à ce moment-là. Et on a continué à faire ça, et il y a à peu près 18 ans, on a écrit un livre sur les... En fait, l'histoire de ça, j'ai beaucoup de choses à raconter. L'histoire de ça, c'est que tous les médecins qui faisaient de l'obstétrique avaient son petit carnet dans ses poches avec les recettes. Hein, parce que tu ne te souviens pas de toutes les recettes d'antibiotiques ou ne pas oublier de prescrire ça à une patiente qui est en travail prématuré ou en tout cas, il y a notre petit livre de recettes. Puis on a décidé de tout ramasser les recettes et de les vérifier avec qu'est-ce qui se faisait là, de façon standard là, au niveau de la Société des obstétriciens gynécologues du Canada, pas dire de niaiserie. Là. Et on a parti un premier livre qui s'appelle le Mémo périnatalité, qui avait 150 pages. 4 ans plus tard, on a refait un nouveau livre de référence. C'était pour nos résidents, en fait, nos résidents en médecine familiale. 4 ans plus tard, on a refait le livre 100 pages de plus. Là, ça a été 5 ans plus tard, 5-6 ans plus tard, on a fait une troisième version de notre livre et il est rendu à 350 pages. Et en même temps, la troisième version, on a mis en application, qui est une application qui s'appelle Mémo périnatalité, qui Il y a 2, 3 ans, il a fallu renouveler l'application parce que là, ça ne fonctionnait plus avec Apple. Tout. Alors, on a renouvelé l'application qui existe maintenant et sur. Puis là, je nous fais. C'est pas pour faire de la publicité, mais c'est pour vous dire à quel point c'est le fun. Alors, on a une application qui est sur tous les types de cellulaires. Et on a aussi le livre qu'on a mis à jour et qu'on a. Alors, tout ça a été publié en juin-juillet 2021. Alors, et on essaye toujours d'être à la fine pointe de ce qui est le standard de pratique. C'est-à-dire que des fois, dans des milieux spécialisés, ils vont ou prendre une recette plutôt qu'une autre. Nous, c'est basé sur les standards de pratique qu'on peut aussi questionner. Puis des fois, une fois de temps en temps, on met une référence sur un article qui nous dit, bon, ben, c'est quoi l'avantage de ci, c'est quoi l'avantage de ça, pour que les gens puissent réfléchir à qu'est-ce qu'ils offrent à leurs patients, là. Par exemple, un déclenchement pour un gros bébé, c'est quoi les risques, c'est quoi les bénéfices, hein, parce que ça, on sait que c'est pas un consensus. Alors, moi, c'est comme ça que je vais chercher mon côté d'érudition. C'est en posant des questions sur les affaires standards. Et la médecine familiale se pose beaucoup de questions sur ça. Sur par exemple, le dépistage de la prostate pour tout le monde, le dépistage du cancer du sein pour tout le monde. C'est quoi les avantages? C'est quoi les désavantages? Fait que, oui, la médecine familiale, il y a vraiment une place pour l'érudition là-dedans. Et ben moi, c'est quelque chose encore, c'est une chose qui était importante pour moi. Voilà. Et je l'ai développé dans mon champ préféré, qui est l'obstétrique.
Pour poursuivre, en tant que membre du conseil d'administration du CARMS, pourriez-vous nous donner plus d'informations sur votre rôle et en quoi consiste en fait les CARMS?
Mon Dieu, le CARMS, là, ben, c'est quelque chose, c'est un organisme auquel a fait appel l'Université Laval il y a à peu près 20 ans pour pouvoir standardiser la façon de faire des demandes de résidence. Avant, ça se faisait dans chaque université. Alors, fallait faire 3 demandes différentes puis remplir des demandes bon, qui pouvaient être différentes d'une université à l'autre. Et si tu voulais faire des demandes au niveau du Canada entier, là, tu utilisais le CARMS. Et là, la ville, la province de Québec s'est associée au CARMS pour les demandes en résidence. Et alors, c'est la façon de faire une demande de poste en résidence, c'est en passant par le CARMS, qui est un organisme qui est canadien. C'est le Canadian Residency Matching Service. Moi, mon rôle au CARMS, en fait, je suis sur le conseil d'administration. Alors, on discute du fonctionnement de CARMS et tout ça. Puis, mon deuxième rôle à la faculté de médecine, ben, j'accompagne les étudiants dans leur choix de spécialité. Alors, à ce moment-là, j'enlève mon chapeau médecine familiale. Là, vous m'avez permis de le prendre, mais je l'enlève pour vraiment trouver la meilleure correspondance, puis aider l'étudiant à faire ses démarches pour le CARMS. Le CARMS consiste, en fait, c'est un site. C'est un site et un programme qui permet à l'étudiant de mettre tous ses documents sur ce site-là et de les attribuer à chacune de ses demandes de programme. Et il peut aussi faire des demandes là, au niveau du Canada entier, ce qu'on fait de plus en plus là, à Laval quand on veut vraiment avoir une spécialité et qu'on pense à aller aussi, même aller dans une autre province pour aller dans cette spécialité-là. Fait que le CARMS a été bâti à partir d'un algorithme. Puis l'algorithme qu'ils utilisent favorise toujours, toujours, toujours les premiers choix, deuxième choix, les choix des étudiants. Alors, ils cherchent la meilleure solution pour l'étudiant, pas pour le programme, pour l'étudiant. Alors, si ben, quelqu'un est placé au 17e rang sur une liste et qu'il peut, puis son premier choix, c'est sur la liste où il est 17e, ben, dès qu'il y aura une place de gens qui sont, qui aura une place dans ce programme-là, ils vont le placer, cet étudiant-là. C'est difficile à comprendre. L'algorithme qu'ils utilisent est un algorithme très pointu qui a eu même un prix Nobel. Alors, disons que c'est difficile à comprendre, mais c'est vraiment quelque chose qui favorise la candidature d'un étudiant dans un programme.
Ah, mais c'est intéressant parce que j'aurais eu tendance à penser au contraire, c'est que c'était plus pas pour le programme de résidence que pour l'étudiant. En tout cas, c'est ce qu'on dit beaucoup. Là. Des fois, on a tendance à voir ça comme un peu une menace, là, tout ce CARMS-là.
Oui, c'est ça, mais non, ça favorise vraiment l'étudiant. Et en fait, il y a une petite vidéo qui explique comment ça fonctionne, qui est de base.
Oui, bien, j'ai pu aller voir sur le site là, un petit peu. Là. J'avais vu la vidéo, puis ça explique quand même bien, mais c'est sûr que tous les calculs là-dedans qu'il doit avoir, là, ça doit être assez impressionnant. Là.
Oui, c'est ça. Puis, il s'assure aussi que ça ne s'est pas trompé, hein, parce que les résultats ne sont pas disponibles dès le lendemain. Hein. Ça prend une dizaine de jours. Alors, il s'assure que toutes les choses sont bien correctes. Là. Donc, c'est bien intéressant.
Dans le fond, pour la prochaine partie là, du podcast, on aimerait peut-être ça parler avec vous là, de quelques, ben, soit des réalités ou des mythes qu'on entend de la...
Oui, des mythes, hein, j'en ai régulièrement, ça, c'est vraiment sympathique. Okay. Entre autres, écoute, je vais tout de suite vous en dire un que vous n'avez pas pensé. Le dernier que j'ai eu en ligne, c'est quelqu'un qui disait que les notes ne comptaient pas, mais dans le DREM, qui est le dossier de rendement de l'étudiant en médecine qui va être sur le site de CARMS, si un étudiant avait des bonnes notes, des très bonnes notes, c'était marqué « il a très bien réussi son chose », et si l'étudiant avait une note normale, il était écrit « l'étudiant a bien réussi son cours ». Il n'y a pas d'affaire de même. Il n'y a rien qui fait référence aux notes.
OK, c'est bon à savoir. C'est bon. Il y a tellement de choses qui se disent que...
Ça, c'est une pure invention, là.
OK, bon, c'est bon à savoir. OK, ben, en fait, le premier énoncé qu'on aimerait vous demander, voir si c'est un mythe ou une réalité, là, c'est « il faut faire de la recherche si nous voulons avoir un dossier solide au CARMS. » Puis en plus de ça, si on fait de la recherche, c'est primordial d'avoir des publications à son nom pour que l'expérience de recherche soit considérée comme valide.
OK. Alors, bon, il y a beaucoup de nuances à faire. Premièrement, la chose la plus importante, c'est votre dossier d'externat. C'est votre capacité comme clinicien. Tellement qu'ils vont... La plupart ne veulent pas avoir de lettre de référence de quelqu'un qui t'a supervisé en recherche. Ils veulent avoir quelqu'un qui t'a supervisé en clinique. Alors, c'est votre capacité comme clinicien qui est la plus importante. Bon, une fois qu'on a dit ça, ben, des fois, d'avoir un peu de crémage sur le gâteau. Mais le crémage, ça peut être plusieurs choses. Si j'allais, par exemple, médecine d'urgence 5 ans, le crémage, ça pourrait être intéressant d'avoir un MBA. J'en ai qui font des MBA. Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a une partie qui est gestion dans le travail du MU5. Si je pense à la médecine familiale, ben c'est sûr que quelqu'un qui a démontré son intérêt pour la communauté. Oui, c'est super intéressant. Si je pense à il y a quelques spécialités chirurgicales, quelques médicales, la recherche devient de plus en plus importante. Bien là, c'est sûr que quelqu'un qui a fait de la recherche, c'est intéressant. Mais il faut qu'il ait fait les deux autres avant. Ça peut peut-être aider à distinguer un étudiant d'un autre quand tu veux quelqu'un qui fait de la recherche dans tes étudiants. Puis tu n'en veux pas tout le temps. Il y a des mouvements dans une spécialité. Disons que c'est jamais perdu, la recherche, là. C'est de l'érudition. Mais disons que je prends la spécialité de gynéco-obstétrique. Il y a un moment donné, il y a beaucoup de gens qui ont fait une année sabbatique de recherche, puis qui ont pu avoir un poste en gynéco-obstétrique. Ça les a beaucoup aidés. Mais maintenant, il y a eu un autre mouvement qui disait « Oui, mais non, Job, là, c'est pas des chercheurs qu'on veut, c'est le monde qui vont faire des accouchements. On veut des cliniciens. » Fait qu'il y a des mouvements, des fois, dans des programmes où la recherche devient plus importante, moins importante, mais c'est quand même un plus intéressant. Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Il y a les gens qui vont faire de la recherche parce qu'ils ont fait un stage de recherche. Il y a des gens qui vont faire le profil recherche à l'Université de Laval. Il y a des gens qui vont faire la maîtrise en recherche. Tout ça peut être intéressant. En fait, ce que me disait quelqu'un qui participe au jumelage, dans un jumelage chirurgical à Montréal, disait, en fait, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est qu'un étudiant soit... Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui est intéressé par la recherche. Bon. Alors, si on l'applique dans un programme pour lequel la recherche est importante, si tu en as fait, ça peut prouver, ça va prouver probablement que tu es intéressé par la recherche. Tu pourrais les convaincre d'une autre façon, parce que justement, la personne qui me disait ça, c'est quelqu'un qui n'avait pas fait de recherche pendant sa résidence. Mais attention, watch out, quand tu es rentré en résidence, ils ont compris que cette personne-là n'était pas arrêtable. C'est ma nièce. Ah, bon. Et alors, elle a été prise et elle est justement maintenant, elle monte toutes sortes de projets de recherche. Mais si ça ne t'intéresse pas, puis que tu es pris pendant toute ta résidence pour faire de la recherche, bien, tu sais, fait qu'il y a comme un équilibre à trouver là-dedans. Je vous dirais que dans certains programmes chirurgicaux et dans plusieurs programmes chirurgicaux, ils trouvent ça vraiment intéressant. Ça devient un plus, je le conseille. La dermato aussi, ça pourrait être, c'est intéressant. La neurologie aussi, ça peut être intéressant. Puis aussi, en fait, l'Université Laval, on est connu un peu moins recherche, ce qui fait que là, il y a deux situations. Il y a la situation que les programmes qui n'ont pas développé leur recherche veulent le développer. Donc, ils vont aller chercher des résidents qui ont fait de la recherche. Ou non. Des fois, ils vont privilégier la clinique. Mais si on va vers l'Université de Montréal, vers l'Université McGill, là, c'est sûr que la recherche est plus favorisée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bémols avec la recherche. Le fond, c'est dire, puis, oh, une autre nuance. Il est possible de faire des stages de recherche ou de faire de la collecte de données. Oui, c'est intéressant, ça prouve deux choses. Soit que tu veux garder des portes ouvertes, soit que tu es vraiment intéressé à la recherche. Bon. Mais si tu as fait plusieurs étapes dans la recherche, par exemple, tu as fait la revue de littérature, tu as participé au développement de la question de la recherche, tu as fait de la collecte de données, tu as fait de l'analyse de données, tu as fait un résumé de tout ça, tu as fait la rédaction, tu as fait la publication, un poster, une présentation, publication, bien, plus tu as fait de choses là-dedans, plus c'est intéressant. Est-ce qu'il faut avoir fait des publications, trois, quatre publications chacun? Pas nécessairement. Mais que tu aies fait quelques petites choses à travers ça, c'est intéressant pour les programmes. Par exemple, j'ai une étudiante qui est rentrée en chirurgie cardiaque, mais on va dire chirurgie cardiaque qui sont pas reposants. Elle avait fait de la recherche de façon importante avec plusieurs publications. Puis elle a été acceptée, je ne me souviens plus si c'était à McGill ou à Montréal, en chirurgie cardiaque. Voilà.
Puis je pense que c'est intéressant aussi
Avec des bémols. Est-ce que ça répond pas mal à votre question?
Oui,
Oui,
vraiment.
mais justement, ça m'amène sur un autre point. Autre que la recherche, est-ce que vous pensez à d'autres choses, par exemple, pour d'autres spécialités, que, comme vous avez dit, là, ça peut ajouter du crémage là, à notre demande?
En fait, il y a toutes sortes de choses. Comme je vous ai parlé du MBA, j'ai un autre étudiant qui est intéressé. Là, je ne sais jamais si c'est en psychiatrie ou en pathologie, c'est une niaiseuse. En tout cas, puis lui est intéressé beaucoup au côté du droit. Alors, je pense que c'était coroner qui l'intéressait. Mais le droit, ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui va en psychiatrie parce qu'il y a quand même beaucoup il y a des possibilités d'aller en cours beaucoup là, du côté de. Alors, le droit, ça peut être intéressant. J'ai des gens qui postulent, entre autres, en psychiatrie, puis qui ont fait, par exemple, un certificat en toxicomanie. Mais là, ça, c'est rendu, je vous le dis, c'est rendu la grande mode. hein, le certificat en sexologie ou en toxicomanie. Fait que est-ce que ça va te permettre de te distinguer d'une autre personne qui fait la même chose? Ben là, je ne sais pas. Hein, c'est ces choses-là. J'ai une autre personne qui est intéressée à la psychiatrie, qui a décidé de travailler un an dans une ressource pour les personnes qui ont des problèmes là, dans la rue puis tout ça là. Alors ça aussi c'est une belle expérience, c'est super intéressant tout ce qu'elle apprend du travail en équipe. Fait qu'il faut aussi faire valoir ce qu'on est puis ce qu'on a fait. Il y a des gens des fois qui me disent mais j'ai rien fait. Mais non, très souvent on jase avec vous autres puis on trouve que mais t'as fait ça, tu sais, faut pas se enlever. J'ai eu un étudiant qui a été pris, une discipline très, très contingentée, la pédiatrie, et qui a été pris. C'était vraiment charmant. Lui, il avait été élevé par une mère qui avait une garderie à la maison. Et il a fait valoir que pour lui, écoute, un enfant de 2 ans, c'est pas un enfant de 3 ans. Ben, moi, dire, moi, ouais, je ne suis pas pire, mais quand même, là, pour être capable de bien comprendre ça, j'ai trouvé ça très charmant. Il y a toutes sortes d'expériences de vie qu'on a, qu'on peut faire valoir aussi. Fait que là, j'y pense comme ça, mais je pense que l'idéal dans ce temps-là, c'est de consulter la personne qui est au programme d'aide au choix de carrière de votre université, puis de voir qu'est-ce qui vous ressemble, où est-ce que vous en allez. Parce que l'idéal, c'est d'y aller avec les choses qui nous ressemblent, puis qui nous intéressent. Puis là, on va donner de l'énergie, puis on va performer. Et on va se faire répéter l'important, c'est ta capacité clinicienne par un docteur qui répète ça tout le temps.
Mais c'est vraiment intéressant que vous parliez du fait que, parce que souvent les étudiants ont tendance à se comparer entre eux. Puis j'ai tendance à dire qu'il faut vraiment y aller avec nos intérêts parce que je crois que ça paraît beaucoup en entrevue qu'est-ce qui a été fait pour les bonnes raisons. Fait que.
Ça paraît beaucoup, beaucoup. Puis en même temps, je veux dire, s'ils veulent pas de toi, t'es aussi belle pour y aller.
Ouais.
Et s'ils veulent te faire faire de la recherche, puis t'haïs ça, là, il faut voir que tu fasses un deal avec toi-même.
C'est vrai.
Appliquer en médecine familiale nous assure d'obtenir un jumelage. Qu'est-ce que vous en pensez on l'entend quand même assez souvent, là.
En fait, l'avantage de médecine familiale, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de postes. Donc, mais je connais des gens qui ont été refusés en médecine familiale et qui ne rentreront jamais en médecine familiale. Fait que ça te donne une bonne chance. Mais là, faut vraiment calculer nos affaires et dire, est-ce que je veux y aller en médecine familiale? Parce que j'ai eu les choses contraires, des personnes qui n'ont pas fait leur deuil de l'autre spécialité, qui sont rentrées en médecine familiale et qui ont failli couler parce qu'ils ne prenaient pas ça au sérieux. C'est sérieux, la médecine familiale, là. Faut vraiment, il y a beaucoup de connaissances à atteindre. Ce qui fait peur aux gens, tiens, je vais en parler tout de suite. Ce qui fait peur aux gens, c'est, mais c'est juste 2 ans de formation. Mais oui. Ce qui arrive, là, premièrement, il y a beaucoup, maintenant, plus de programmes de 3 ans. Il s'en vient, on s'en vient vers une formation qui peut être prolongée selon des fois des domaines spéciaux dans lesquels quelqu'un veut se spécialiser, là, qui ne sont pas les domaines comme l'obstétrique et les affaires vraiment courantes, là. On s'en va vers une médecine familiale un petit peu plus à la carte. Puis, en fait, là, ce que je dis aux étudiants qui sont stressés, les externes qui disent oui, mais je ne serai pas compétent au bout de 2 ans. Ben, tu vas savoir, c'est un peu comme mon stage d'obstétrique, là. Tu vas être capable de gérer toutes les urgences puis les spotter. OK? Quelqu'un qui est tout d'un coup constipé puis qui a perdu 20 livres dans les derniers 3 mois, tu sais qu'il y a quelque chose de grave en dessous de ça, là. T'sais, faut que tu. Alors, spotter les urgences, c'est sûr que en bout de 2 ans. Mais c'est comme si tu devenais un résident senior. Les résidents seniors, ils savent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas tout encore. Fait que quand tu rentres en pratique, tu es un résident senior. Tu as encore des choses à apprendre. Tu as quelques années avant de te roder, puis de bien tout posséder, puis être tout le temps confortable. Puis de continuer à apprendre pendant ces années-là, c'est sûr. Puis ce que vous oubliez, c'est que vous oubliez à quel point vous êtes dans une courbe. Comment on appelle ça, ces courbes-là? Les courbes-là qui montent vite, 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 là? exponentielle. C'est comme des enfants de 2 ans qui apprennent. C'est incroyable. Vous avez un cerveau qui apprend. Bien, tu sais, de première année à l'externat, vous avez appris énormément de choses. Pendant les 2 années d'externat encore, puis vous êtes dans la courbe exponentielle. Ça, il faut faire confiance à ça. Moi, les résidents de deuxième année, quand ils finissent leur deuxième année, là, ils sont-tu contents de ne plus avoir à venir nous raconter chacun des cas? Puis juste qu'on parle des cas en fin de journée, parce qu'ils savent quoi faire avec leur cas. Alors, c'est très clair, quand vous êtes rendu à la fin de résidence de médecine familiale, vous êtes rendu capable d'être médecin de famille, mais avec encore des petits bouts. Puis ça va être l'histoire de votre vie de toute façon. Des petits bouts qui nous manquent, puis on dit, ben, t'es un peu, je vais aller vérifier, puis je vais te revenir avec ça. Parce que comme je vous disais, la prostate, je ne sais toujours pas comment traiter ça. Ben, un petit peu. Je sais en tout cas qu'il faut s'assurer qu'il n'est pas bloqué. Mais quand même, là, il doit y avoir des affaires nouvelles depuis la dernière fois que j'ai traité des prostates. Fait que je retournerai voir dans mes livres pour voir me mettre à jour là, de ce côté-là.
Oui, ben je crois que c'est aussi d'accepter un peu l'incertitude du métier. Là. Être médecin de famille, il y a tellement beaucoup de choses à savoir. Okay.
Ben, l'incertitude des choses pas graves.
Mm-hmm.
Chose qu'il faut encore que tu vérifies. Fait que ça dépend aussi de notre niveau de confiance en nous, puis de notre confort avec l'incertitude, comme tu dis là. Mm.
Super. Le prochain énoncé qu'on voulait savoir si c'était un mythe ou une réalité, c'est en fait construire son dossier en fonction d'une spécialité tout au long du pré-externat, par exemple. Est-ce que ça nous empêche de rentrer dans une autre spécialité si on change d'idée en cours de route? Je ne sais pas si la question est claire.
Oui, c'est très clair. En fait, une expérience en recherche, c'est quand même une expérience en recherche. OK? Alors déjà, on est rendu à un niveau. Et si on change de spécialité, c'est sûr que tout ce qu'on aura appris sur comment ça se fait une recherche, ça reste là. Ça, il faut le faire valoir. Tout ça, par contre, les gens aiment bien quand c'est dans leur spécialité. Il faudra ouvrir là-dessus, soit dans la lettre, soit lors de l'entrevue, pour expliquer qu'est-ce qu'il y a. Puis, en fait, les gens cherchent des bons candidats et non des candidats qui ont juste une idée dans la tête, dans la vie. Alors, c'est bon de l'orienter, mais quand on peut garder une orientation un peu large, c'est pas mauvais non plus. Hein? Quand c'est quelque chose de chirurgical, on peut quand même trouver des affaires qui sont un petit peu plus larges dans le domaine chirurgical, peut-être favoriser ça, peut-être. Mais déjà, quand c'est chirurgical, ça peut s'appliquer à un autre domaine, la façon de penser et tout. Fait que ça ne nous tire pas une balle dans le pied. Je pense qu'il faut faire confiance à ce moment-là.
Donc, avons fait un ELI pour ceux qui nous écoutent, puis c'est quoi l'externat longitudinal intégré? Est seulement bon pour les applications de médecine familiale et non pas pour les autres spécialités? Un ELI pourrait nuire à un étudiant qui ne veut pas poursuivre en médecine familiale, exemple en chirurgie ou en médecine d'urgence.
Pas du tout. En fait, je pense à des gens qui sont en ELI à Joliette puis qui font des stages en chirurgie cardiaque. Là, c'est comme, tu n'en auras pas. Ça fait qu'il y a, j'ai des gens qui sont rentrés dans des domaines chirurgicaux ou médicaux plus avancés qui étaient en ELI. La seule chose que je conseille à ce moment-là, les gens qui sont à l'externat en ELI, c'est de venir faire des stages réguliers, de venir faire des stages à option à Québec ou à Montréal pour comprendre l'atmosphère qu'il y a dans une résidence. Parce que si on regarde la chirurgie à Rimouski, c'est cool, c'est vraiment le fun. La chirurgie à Québec, c'est stressé. Alors, tu sais, il faut connaître un peu, ou je pense à la gynéco-obstétrique, là. La gynéco, c'est pas du tout, c'est pas la même tension. Fait qu'il faut voir un peu comment ça se passe un petit peu en ville, là, pour la personne elle-même. Mais non, ça te défavorise pas. Mais il faut voir que tu planifies tes stages à option en fonction de ça. Je ne te conseillerais pas de faire un stage à option nécessairement à Rimouski ou à Gaspé. Y en a-tu à Gaspé maintenant des élites? Non. À Chibougamau, Chibougamau, c'est un bel élite aussi, Joliette. Et j'en oublie.
C'est super, c'est bon à savoir parce que les élites, je trouve tellement que ça a l'air intéressant, mais il y a beaucoup de gens encore qui pensent que c'est de se nuire d'aller en élite quand on veut faire
Ben, beaucoup de gens pensent deux choses. Il faut se faire connaître. Hein? Bon, ouais, mais il peut avoir des avantages à se faire connaître. C'est une mauvaise. C'était pas si bon que ça. Mais alors, il faut se faire connaître. Ils vont me prendre plus s'ils me connaissent plus. Ben, écoute, peut-être que le stage à option peut aider. Mais les patrons, là, ils connaissent tous les chirurgiens qui sont autour. Fait que s'ils ont une lettre d'un chirurgien de Rimouski, ils vont connaître ce chirurgien-là, puis ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Fait que, alors, de se faire connaître par un chirurgien à Rimouski ou par un chirurgien à Québec, là, ça se vaut aussi. Et puis, il y a une autre erreur aussi, c'est qu'ils pensent que plus je vais vouloir faire une spécialité, plus ils vont me prendre. Non. C'est pas parce que tu veux, c'est parce que tu es bon qu'ils vont te prendre. Ils vont voir que je le veux pas vraiment. Non. Ils vont te prendre si t'es bon, pas si tu le veux vraiment. C'est pas une compétition de désir. C'est comme une fille puis un gars. La fille a beau vouloir sortir avec le gars, là. Le gars, là, s'il veut pas, il veut pas. Hein? Il voudra pas plus parce qu'elle veut plus. Mais c'est à peu près la même chose. Hey, c'est un bon exemple.
C'était un bon exemple. C'était vraiment une bonne
conversation.
Non, c'est super bon, ça. Le dernier énoncé là, qu'on voulait savoir, c'était un mythe, une réalité, c'est ne pas obtenir de jumelage diminue fortement nos chances d'être jumelés d'année en année.
Bien, c'est vrai d'une certaine façon. C'est si tu n'as pas pris une première fois, qu'est-ce que tu vas faire pour qu'ils te prennent la deuxième fois? Parce que l'année d'après, il y a une gang de petits brillants qui vont arriver à nouveau. Puis qui vont pousser dans le derrière. Fait que qu'est-ce que je peux faire de mieux pour être pris l'année prochaine? Fait que c'est vraiment la question qu'on se pose quand les gens viennent me voir après un non-jumelage. Pour vous dire que dans la plupart du temps, l'année passée, là, sur les, disons, je me souviens pas du chiffre exact, c'est 7 ou 8 qui avaient été non-jumelés, il y en a 4 qui ont jumelé au deuxième tour parce qu'ils ont réévalué leurs affaires. Tout ça, puis il y en a 4 qui ont décidé d'être jumelés au deuxième tour. Fait que, mais les 4 qui restent, je ne sais pas ce qui va se passer avec eux autres cette année. On va voir. L'avantage de faire, le désavantage de faire un an comme ça, c'est que tu perds un an, puis c'est quand même difficile à vivre. C'est que, tu sais, t'es un peu laissé à toi-même. Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer? Puis, tu sais, plus être avec ta gang, c'est pas évident. Ça, c'est un désavantage. L'avantage, c'est que si tu n'es pas prêt à prendre une autre spécialité et que tu rentres de reculons, tu peux avoir de la difficulté. Fait que c'est ça qu'il faut peser, le pour et le contre. Et je vais vous dire, ça prend quelques mois. Hein. L'externat, on commence à appliquer là, en résidence à peu près le mois septembre-octobre. Puis on va classer nos choses juste au mois de mars. C'est rendu à ce moment-là qu'il faut réfléchir où est-ce qu'on en est rendu. Là. Fait qu'il y a quand même beaucoup de réflexion puis à faire là, pendant cette période-là.
Je ne sais pas si vous aviez, là, nous, on avait déjà fait le tour des mythes, ben, des énoncés là, qu'on avait entendus auprès des étudiants. Je ne sais pas s'il y en a qui vous viennent en tête, que vous voudriez faire des...
Vous êtes vraiment bon. Je les ai glissés ici et là, alors, quand ça me venait, les idées. Fait que je n'ai pas nécessairement beaucoup d'autres idées.
Ben, c'était vraiment complet. Moi, j'ai tellement appris.
Il y a une chose qu'un de vos directeurs m'a dit, puis je trouvais ça le fun. Il dit, on aime, ben, premièrement, il spécifiait à quel point les gens qui sont à l'administration du programme, puis qui ont l'air des gros méchants parce qu'ils vous disent non des fois, à quel point ils sont sensibles à votre bien-être et à votre stress. Alors, c'est vraiment pas voulu quand il y a des stress, puis qu'il les laisse, les stress. Là. Et une chose qu'il m'a dit, il dit, j'aimerais tellement, il dit, moi, il dit, Puis c'est un chirurgien spécialisé. Il dit, tu sais, il dit, moi, là, les spécialistes autres que médecine familiale que j'en compte, ils sont heureux dans leur vie. Puis les médecins de famille que j'en compte, ils sont heureux dans la vie. On peut être heureux dans la vie. T'sais. C'est possible d'être heureux dans la vie. Puis c'est vraiment, maintenant, vous êtes rendu, ça c'est mon message de fin, là, vous êtes rendu à une étape où le plan, c'est pas d'avoir le plus gros trophée, le plan, c'est d'être heureux dans la vie. C'est ça le plan. Fait qu'être soi-même, puis être heureux. Alors, même si je suis pas neurochirurgienne, comme un de mes confrères qui s'appelle Léo Quentin, qui est neurochirurgien à l'Enfant Jésus et qui a parti un programme, là, c'est lui le défi des escaliers là, qui a parti ça. C'est fantastique. Il a trouvé une façon de vivre entièrement sa neurochirurgie. Ben, je suis tellement heureuse pour lui. Il est heureux là. Moi, je n'aurais pas été heureuse en neurochirurgie, c'est clair. Puis, je connais des gens qui pensaient qu'ils seraient juste heureux en chirurgie plastique ou en chirurgie cardiaque, puis qui finalement sont tellement heureux dans d'autres spécialités ou en médecine familiale, parce qu'ils peuvent s'épanouir là-dedans. Puis, ben, c'est ça qui est le plus important. Contribuer puis être heureux.
Oui, bien merci parce que souvent c'est important de se le rappeler, surtout dans toutes les études, dans nos études, quand on ne sait plus trop où est-ce qu'on s'en va, quand finalement il y a des choses qui marchent moins bien. Donc sur ce, merci beaucoup pour cette discussion vraiment intéressante. On est assez certain là, que ça va assurément avoir permis aux étudiants de se trouver parmi ce processus complexe qu'est le CARMS. Puis merci beaucoup pour votre temps et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode du Balado.
Merci.
Ça m'a fait plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus.
Merci. Merci. Bonne journée.